Ce n'aime pas les étiquettes. Et femme, en un sens, est une étiquette.
Elles sont des milliers tous les jours. Mais qui sont toutes ces femmes?
À votre avis, est-ce que les femmes sont lâches?
Strong women are not unusual to me.
Mais je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société.
Je crois qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi peu femme qu'elle veut.
Salut à toutes les apprenties sorcières et à tous les apprentis sorciers. Quelle joie de vous retrouver pour la deuxième saison du podcast Apprenties Sorcières. Je suis Julie Destouches, journaliste passionnée d'ésotérisme. Ce mercredi 20 octobre, la pleine lune en bélier relance la roue du zodiaque pour un tout nouveau cycle de lunaison. Du coup, en bon bélier moi-même, je vous propose qu'on lui emboîte le pas pour initier ensemble la suite du programme. L'apprentissage à la magie et aux connaissances cachées ne fait que commencer. Une page du grimoire s'est tournée, un peu brutalement, du fait du premier confinement. Tant de bouleversements, d'effondrements et de traumatismes depuis. Cette deuxième saison sera forcément différente de la première, mais j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Cette fois, pour continuer mon initiation, j'ai décidé d'aller à la rencontre de sorcières modernes et d'experts dans leur domaine. Dans cet épisode, mes maîtres à penser sont une médium, une naturopathe, un psychanalyste et une autrice podcasteuse spécialiste du sujet. Et justement, au menu de ce premier épisode, un sujet tremblant et frissonnant, la mort. À quelques jours d'Halloween et de la Toussaint, la faucheuse va se retrouver sous les feux de l'actualité. Les enfants déguisés vont s'amuser à faire peur. Moi, j'adore arpenter les cimetières, j'y trouve du calme, des arbres, des histoires de vie. J'aime aussi les vanités, les crânes de cristal, ce qui ne m'empêche pas d'avoir peur de la mort. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on avait si peur de la mort. Je suis allée chercher des éléments de réponse du côté de la psychanalyse.
Je m'appelle Stanislas Kalimerov, je suis le secrétaire général de l'Association des psychanalystes européens, donc l'APE, et je suis moi-même psychanalyste. La vision de la mort, c'est un sujet récurrent en psychanalyse. Les personnes viennent souvent, dès le début, en nous parlant de la mort de leurs parents, de leurs grands-parents. La mort est vraiment un sujet de réflexion, de parole, de dialogue presque de tout le monde. Et selon les cultures, c'est un peu différent aussi. Moi-même, j'ai beaucoup vécu au Portugal et le cimetière à Lisbonne s'appelle le cimetière des plaisirs quand même. Donc la mort peut être un plaisir. On parle effectivement du dernier souffle. Donc c'est la respiration. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. La plupart des gens ne savent pas respirer ou ont des maux de tête violents parce que c'est la respiration. La bonne respiration fait un afflux sanguin au cerveau qui est irrigué encore plus, ce qui fait que ça change les yeux, la respiration, le corps, les douleurs, et la concentration. Et c'est effectivement tout ça. Et vous savez qu'un bébé respire naturellement par le ventre et que la respiration remonte à la gorge. Vous savez quand ? 7 ans, le cours préparatoire, l'école. Le premier stress d'un enfant, c'est 7 ans, c'est l'école. Et la respiration remonte d'un seul coup. Et vous allez en Asie, chez les bouddhistes ou en Asie, tous les habitants et les enfants respirent tous avec le ventre parce qu'on leur apprend et que c'est le ici et maintenant qu'on ne connaît pas ici. Nous, en tant que psychanalystes, on est aussi un peu passeurs. On explique aux gens d'accepter leur névrose, leur psychose, leur peur. La peur est quand même le nerf de la guerre de notre patientèle. Et la peur amène la jalousie qui amène la colère. Enfin, c'est vraiment tout un cycle de réflexion. On peut se libérer des peurs, de la peur de la mort par un travail sur soi-même, par des livres, lire, écouter les autres et peut-être aussi se confronter à la mort. Moi, j'ai beaucoup de patients qui m'ont dit « Ma grand-mère est décédée, j'ai refusé de voir le corps, j'ai refusé d'aller à l'enterrement ». Non, il faut ne pas avoir peur d'aller côtoyer la mort, d'aller voir ses morts, ses proches morts. Il faut faire un travail sur soi-même, un travail de paix, de réflexion, parler, la parole qui est libératrice, c'est vraiment la parole, parler.
Penser sa mort de son vivant, j'avoue que l'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. J'imagine mal la réaction de ma famille si je leur annonçais qu'à 46 ans, j'allais écrire mon testament et organiser mon enterrement. Le sujet est encore tellement tabou aujourd'hui. Comment faire pour que ça change ? Une fois n'est pas coutume, c'est une femme qui a eu le courage de décider de consacrer sa vie à la mort, pour que nous osions enfin la regarder en face. On l'écoute.
Je m'appelle Sarah Dumont et j'ai fondé le site Happy End, qui est un site qui vise à parler de la mort à 360 degrés. Donc aussi bien la question de l'avant, est-ce qu'on peut se préparer à la mort, est-ce qu'on peut l'anticiper, comment anticiper son départ, la question des obsèques, comment on peut organiser des enterrements qui nous ressemblent, à notre image, sans trahir le défunt, quand c'est la famille qui l'organise, et sur lequel aussi on aborde la question du deuil, le chemin de deuil. Comment vivre malgré l'absence et la douleur parfois. C'est un site que j'ai créé parce que je me suis rendu compte en organisant l'enterrement de mon père, on a organisé l'enterrement de façon assez libre, c'est-à-dire on était dans une salle de concert, son cercueil a été recouvert de post-it multicolores, on s'est retrouvé ensuite longuement pour boire des verres et échanger, et les gens ont applaudi lors des hommages. Et en fait, en vivant ce moment-là, et après, a posteriori, je me suis rendu compte que mon entourage ne savait pas qu'on avait le droit d'organiser des obsèques de cette façon-là. Et ça m'a un petit peu alarmée parce que je me suis dit que j'avais eu cette chance, en fait, que je trouvais que c'était vraiment une chance de pouvoir rendre un hommage qui ressemble aux défunts et de ne pas se conformer forcément à ce qu'on nous propose actuellement. Et j'ai eu envie de porter ce message, en fait, d'informer le grand public sur l'étendue des possibilités qui sont en réalité très larges. Puisque pour moi, en fait, à mon sens, aucun enterrement ne devrait se ressembler puisqu'ils sont censés ressembler aux vivants qui sont décédés. Et puis, en cheminant avec un deuil, je me suis également rendu compte de la solitude des endeuillés, puisqu'aujourd'hui, dans notre société, il y a une injonction de se relever vite, y compris après la perte d'un proche, et que l'endeuillé se sent très vite comme un poids pour la société et qu'il a besoin qu'on l'autorise à évoquer la perte, à parler de sa douleur, de son chagrin, même parfois aussi des forces qui l'animent depuis le décès de la personne qu'il aimait. Mais en tout cas, il y a vraiment un besoin aujourd'hui de réhabiliter la mort dans nos vies, parce que ce silence nous rend malade et pesant. Et pour moi, on se sent très vivant finalement quand on se connecte au sujet de la mort, puisque c'est aussi ce qui fait la préciosité de la vie, c'est de savoir qu'on va mourir et d'en avoir conscience. Il n'y a pas d'âge pour anticiper en fait ces obsèques, en tout cas pour écrire ce qu'on souhaite pour ces obsèques. Alors souvent, moi, les personnes me disent « mais je m'en fiche, les gens font bien ce qu'ils veulent, mes proches font bien ce qu'ils veulent, je serai mort, je ne serai plus là pour le voir ». Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que déjà, il faut savoir que pour moi, on a une responsabilité en tant que vivant, c'est d'assurer que nos proches pourront pleurer tranquillement, sereinement, sans se poser trop de questions, c'est-à-dire sans culpabiliser de faire des choix que le défunt n'aurait peut-être pas fait. Donc je pense que leur dire ce qu'on aurait souhaité, alors l'idée n'est pas de tout écrire, mais au moins est-ce que je veux une crémation, une inhumation, ou est-ce que je veux reposer, si c'est une sépulture, ou est-ce que je veux qu'on disperse mes cendres, mais aussi est-ce que je veux une cérémonie civile ou une cérémonie religieuse. Parce que beaucoup de familles, en fait, on ne se rend pas compte, mais les familles se disputent beaucoup au sujet des obsèques de leurs proches. Il y a plein de conflits familiaux à ce sujet. Donc je pense que le cadeau qu'on peut faire à nos proches avant de partir, c'est déjà de leur éviter ce genre de discussion un petit peu houleuse, ou en tout cas cette culpabilité. Et ensuite, moi, ce que j'essaye de me dire, moi-même, j'ai écrit mes dernières volontés, j'avais 42 ans, c'est en fait de transformer cet acte qui peut être un petit peu anxiogène, parce qu'on se dit toujours, c'est comme quand on prenait sa carte de donneur d'organes, « Oh là là, il va m'arriver malheur, je vais mourir du jour au lendemain ». Pas du tout. Je pense qu'il faut le voir comme un dernier acte de vie, c'est-à-dire que on organise ses anniversaires importants, on organise son mariage, on organise le baptême de ses enfants. De la même façon, on peut organiser ses funérailles, en tout cas dire ce qu'on souhaite, parce que de toute façon, on a des goûts, on n'a pas forcément... on sait quelle couleur on aime, on sait quelle ambiance musicale on aime, aussi si on préfère le bois ou le carton, enfin, on a déjà des idées. Donc en fait, on peut vraiment se dire qu'en écrivant ses dernières volontés, donc en tout cas les éléments importants qui nous semblent... Si on est écolo, par exemple, on peut dire qu'on veut pas de marbrerie, qu'on veut être dans un cimetière écologique, ou qu'on veut reposer au pied d'un arbre, ou qu'on veut que ces cendres soient dispersées en pleine nature. Donc je pense que c'est important, en tout cas, de dire ce qui semble important pour nous à nos proches, en tout cas de le laisser dans un livret de famille, sur une petite feuille de papier. Et en faisant cette démarche de ce vivant, en fait, c'est une façon aussi de s'assurer que l'énergie qui sera véhiculée ce jour-là, elle nous ressemblera. Et je pense que ça, c'est quand on a assisté à un joli enterrement où il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie, mais voilà, évidemment, on pleure nos morts, mais on célèbre surtout leur vie. Et ben, je pense que ça, il y a des gens à la fin d'une journée d'obsèques, hein, même pour quelqu'un de très proche, peuvent dire c'était une très belle journée, et d'ailleurs qui remercient parfois les professionnels du funéraire. Et je pense que quand on a vécu ça, c'est une première pierre posée, mais extrêmement précieuse pour son chemin de deuil. Et je pense que de son vivant, si on peut faire ce cadeau aux gens qu'on aime, c'est merveilleux. Souvent, on me demande si je suis pas déprimée en fait de traiter ce sujet toute la journée. Et moi, ce que je réponds, en fait, pas du tout. Bon, déjà, moi, c'est pas du tout un sujet pesant pour moi. Au contraire, je me sens extrêmement vivante. Et même quand j'organise des apéros de la mort, qui sont des moments d'échange hein, avec beaucoup de personnes endeuillées, et, voilà, on évoque la perte, le chemin qu'on mène après le décès d'un proche. En fait, c'est des moments plein d'énergie de vie. On n'est jamais autant heureux que quand on évoque nos morts, c'est-à-dire même si un ami me parle de mon père ou évoque un souvenir heureux qu'il avait avec lui, moi je suis hyper contente en fait. Et malheureusement, les gens n'ont pas l'entourage a toujours peur d'évoquer ah je vais la déprimer. Vous savez, c'est encore pire pour les parents qui ont perdu leur enfant. Mais ils deviennent des pestiférés. Moi, c'est ce qu'ils me racontent. Tout d'un coup, on leur parle plus, limite on les évite parce que le malheur peut être contagieux. Et alors qu'en réalité, ces personnes-là n'ont qu'une envie. C'est qu'on fasse exister leur mort. Et ce que je constate, en tout cas, pour lors des apéros de la mort que j'organise, c'est vraiment la force. En fait, moi, ce que je retiens, et c'est pour ça que je suis pas déprimée à l'issue de ces rencontres qui sont, pour le coup, où il y a toujours des larmes, hein, malgré tout, je suis subjuguée par la force humaine, en fait, les ressources qu'on a et dans lesquelles on puise face à un grand malheur. Et ce que je vois aussi beaucoup, c'est des belles histoires de transformation. Pas que les personnes ont évolué, mais c'est surtout que je trouve que finalement, la douleur, qu'après on a envie d'exister et d'exister bien, d'être en harmonie avec sa vie. En fait, quand on vit un grand malheur, là, comme la perte d'un enfant ou d'un mari, c'est que finalement, on n'a plus de temps à perdre, en fait. Et là, on va se connecter finalement à ce qu'on a vraiment envie de vivre. On se rend compte que la vie est fragile. Donc, je trouve que d'avoir un peu plus conscience de sa finitude, ça nous aide à se lever le matin et à se dire, attends, est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis pas en train de subir des choses? La vie, elle est courte. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, je trouve que, voilà, de baigner dans la mort, de s'intéresser au sujet, que ça soit au sujet éventuellement d'anticipation de ses obsèques, au sujet l'histoire de deuil qu'on a tous vécu, finalement, ça nous connecte à notre essence de vie, à notre énergie de vie.
Penser à sa mort en organisant une ultime fête, c'est vrai que l'idée est séduisante. Je sais pas vous, mais moi je connais tellement de personnes qui s'empêchent de vivre, de peur de mourir, que ça vaut le coup de faire passer l'idée. Si la mort n'est qu'une étape, que trouve-t-on de l'autre côté du voile qui nous sépare de l'au-delà? Seule une médium qui sait voyager entre les mondes pouvait me répondre. Habituée des plateaux télé et des émissions de radio en direct, très prise par ses consultations au Salon Zen, la médium Annabelle de Villedieu a bien voulu m'accorder un peu de son temps.
Je suis Annabelle de Villedieu, médium clairvoyante et thérapeute en déprogrammation des mémoires, soins chamaniques et musicothérapie énergétique. Et je propose donc sur la plateforme AstroConsult tous les jeudis matins des consultations de coaching médiumnique, c'est-à-dire que je ne fais ça que sur la plateforme où je relis à la fois mon don de médium et mon don de thérapeute pour en faire quelque chose qui amène à aider les personnes et voir plus clair sur des blocages, des choses qu'elles comprennent pas, sur leur donner des clés et des outils de compréhension pour les faire avancer, qu'elles puissent avancer sur leur propre chemin. Alors moi, en tant que médium, je vois la mort comme un véritable passage. Un passage, en fait, où l'être ne meurt jamais parce que, finalement, le corps physique n'est qu'une condensation d'énergie et que nous sommes que des énergies, des vibrations, des champs électromagnétiques. Que pour moi, il y a toute cette énergie-là, elle ne se détruit jamais, en fait. Elle se transforme, elle se transmute. Et lorsque l'on meurt, on sort de ce corps physique, de cette enveloppe charnelle qui nous a permis de vivre une expérience de la matière, en fait, hein, de ressentir, d'aimer, de toucher, de goûter. Mais en même temps, nous sommes plus vastes que ça. Et toute notre mémoire, tous nos champs d'énergie partent, se libèrent et vont dans un autre plan de conscience. Donc, en fait, nous ne sommes pas mortels. La mort n'existe pas pour moi. C'est juste un passage. En plus, moi qui suis médium, clairvoyante, depuis que je suis toute petite, j'avais ces connexions avec les décédés enfants, je les voyais, j'avais des messages. Je ne peux pas renier cet espace-là, en fait, d'une autre vie derrière la vie. Et en fait, pour moi, c'est qu'une continuité de la vie. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas cette notion de mort. Elle nous fait très peur, en fait, parce qu'elle nous amène vers l'inconnu. Elle nous amène aussi vers se détacher. En fait, parce que quand on est dans le corps physique et dans l'enveloppe physique, on a tout cet attachement à la matière et on crée d'ailleurs dans notre monde cet attachement permanent, ce besoin toujours d'exister à travers un monde extérieur. Mais quand on travaille justement dans un détachement de soi, quand on travaille pour aller rencontrer son âme, quand on travaille pour être dans cette dimension intérieure spirituelle, on n'est plus dans cet attachement de la matière, on n'a pas peur de quitter cette enveloppe charnelle, parce qu'on sait que c'est juste un passage qui nous amène vers un autre plan de conscience qui vibre en fonction, en effet, de là où on en est dans notre vie physique. C'est-à-dire que plus je vais avoir de la conscience, faire un travail sur moi, me libérer, me dégager, plus je vais faire monter mon taux vibratoire, et plus quand je vais partir, je vais aller dans des plans qui vibrent haut. Et plus je vais être dans quelque chose qui me raccroche à la matière avec des difficultés, et moins je vais peut-être pouvoir monter haut. Mais après, il y a un chemin derrière encore, il y a un chemin d'évolution derrière tout ça. Alors en fait, l'enfer et le paradis, parfois on dit que l'enfer est sur terre, mais bon. Mais en même temps, oui, c'est ça en fait. Il y a un film qui est magnifique, qui est Ghost. Hein. Et je trouve qu'il représente très bien cette notion justement de ce champ d'énergie qui se dégage de notre corps lorsque l'on quitte l'enveloppe physique, hein, quand on détache cette corde d'argent en fait, qui nous relie à cette matière physique, à nos champs d'énergie. Et en même temps, on voit des miasmes en fait, de sombres qui sont les personnes qui ont vraiment vécu des vies terribles et qui sont dans cette énergie très sombre et très noire et qui restent dans un plan de très basse fréquence. Et on voit, quand on ouvre la porte de la lumière, qu'on va dans un tunnel et qu'on rencontre et qu'on va dans un autre plan de conscience qui est un autre espace de vie, en fait, mais sous une autre forme. Et en fait, moi, j'ai vécu des expériences aussi de voyages astraux. Parce que en tant que médium, voilà, j'ai vécu beaucoup d'expériences énergétiques. Et dans le voyage astral, je suis sortie de mon corps, donc je me suis vue vraiment décorporée. Et puis je me suis sentie dans un monde complètement vibratoire énergétique, où je n'étais plus qu'une énergie et je rencontrais les êtres en fonction de leurs vibrations. Donc en fait, je les ressentais, je les reconnaissais et ça me faisait une dimension d'ouverture de cœur, de reconnaissance. C'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment au-delà de notre enveloppe. Et puis du coup, c'était magnifique. Et à un moment donné, je suis revenue dans mon corps et là, j'ai eu très mal en fait. Parce que quand on revient dans le corps, on se rend compte que le corps vibratoire est plus vaste. Et quand on réincorpore, il y a une douleur corporelle en fait qui se met en place. Voilà. Mais du coup, c'était une belle expérience qui m'a permis vraiment de connecter en fait cette sensation, de rencontrer cet espace vibratoire de sortie de corps. Voilà. Après, j'ai fait beaucoup d'expériences aussi. J'ai failli mourir plusieurs fois et j'ai eu donc des connexions avec cette énergie de ce passage. Voilà, où je me suis où j'ai compris en fait comme une espèce de certitude, de compréhension de globale de tout ce que pouvait être la mort qui n'était pas la mort. Et en fait, moi, je me suis même posé la question, je me suis dit, mais finalement, rien n'est important, puisque de toute façon, cette matière, on ne fait que passer. Donc pourquoi s'attacher à tout ça? Et finalement, je me suis rendu compte qu'on avait aussi, même si on a cette conscience qu'on ne fait que passer, on peut s'autoriser aussi à aimer la vie, à aimer les belles choses, à profiter quelque part de ce que cette matière nous offre, de ce que cette terre nous offre. Parce que c'est magnifique de vivre cette expérience-là. Et moi, je considère cette expérience, enfin cette vie, comme une expérience qui est un passage avec... Et moi, j'ai compris quelque chose de très important aussi, c'est qu'en fait, dans notre vie incarnée, là, nous ne sommes une parcelle de notre mémoire. C'est comme si, plus haut dans ce champ vibratoire, nous étions une boule qui contenait toute notre mémoire des vies antérieures, de nos expériences. On est beaucoup plus vaste que ça. Et là, quand on vit une expérience dans la corporalité, on vit une partie, en fait, d'une expérience qui va, quand l'on part, se reconnecter à cette grande boule d'énergie qui fait partie de nous, mais qui est beaucoup plus vaste, avec toutes nos expériences, nos vies antérieures, ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin de transcender. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste au-delà de nous. Et bien sûr, je crois en la réincarnation. Depuis toute petite, de toute façon, j'y crois. Même si je n'ai pas été élevée dans cet univers-là, mais la réincarnation, pour moi, c'est une certitude, c'est une vérité. Et j'ai été beaucoup confrontée justement dans mes consultations médiumniques avec des personnes qui étaient tellement encore reliées à leur antériorité qu'elles me racontaient des choses où je leur disais « mais je vous vois là, 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 là » et c'était des connexions de vie antérieure. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment cette mémoire que nous portons. Et en fait, je pense que nous ne sommes qu'une forme mémorielle et que nous portons toute cette mémoire et que nous faisons partie tous d'une grande mémoire universelle. Voilà. Où tout est connecté, interrelié, et qu'on peut avoir accès à cette mémoire universelle de conscience quand soi-même on fait ce travail d'alignement et que, qu'on se détache et qu'on rentre dans cette potentialité en fait, de recevoir les informations. Donc pour moi, ça n'existe pas en fait. Hein. C'est qu'une transmutation, une transformation, une expérience. Et voilà, je trouve ça merveilleux finalement. Oui, on est dans une période un peu particulière avec Halloween, la fête des morts. Alors bon, pour moi, c'est quand même une fête qui a beaucoup dévié cette notion de la mort. C'est devenu très commercial et puis un côté un peu glauque quand même. Hein. On peut dire ça comme ça. Hein. On n'est quand même pas dans les énergies très, très spirituelles. On est plutôt dans quelque chose un peu bas astral, j'appellerais ça comme ça. Mais moi, c'est vrai que pour moi, c'est important aussi d'honorer les morts, mais de libérer les morts, c'est-à-dire de ne pas s'attacher à. Parce que si on s'attache à une personne décédée, on peut l'empêcher aussi d'aller vers son chemin et de partir. Parce que quand il reste des liens en fait énergétiques hein, avec les personnes qu'on a croisées, avec qui on a vécu, et quand on garde des objets ou qu'on s'attache, il reste une attache. Et pour moi, c'est important à un moment donné de faire un vrai travail de deuil pour justement accompagner aussi la personne qui vient de partir pour lui dire « Ok, voilà ». Moi, je t'accompagne, va vers la lumière, va vers là où tu dois aller, c'est ton chemin, j'accepte. Et je ne m'attache pas à toi pour t'empêcher d'y aller. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Et je pense que les morts, il faut les laisser aussi là où ils ont besoin d'aller. Et il faut les aider à se détacher de la matière parce que certains ne comprennent pas pourquoi ils sont morts, surtout dans les morts violentes. Donc, ils sont encore là, ce qu'on appelle les amérantes, en fait. Hein. Ils sont encore entre deux plans. Et en fait, donc ils sont là, ils essaient de s'attacher à des choses de la matière qui restent, mais ils ne sont plus dans la matière. Donc, c'est important de faire ce travail de libération en conscience, c'est-à-dire comme un petit rituel où, voilà, j'honore cette personne qui est partie et puis peut-être que je vais même brûler des affaires en disant, voilà, ce que je brûle, c'est une libération. Voilà, quelque chose qui amène vraiment vers cette libération. Et faire ce vrai travail de deuil qui n'est pas facile, forcément, parce qu'on parle toujours des attachements de la matière. Quand quelqu'un part, c'est un choc, c'est violent, c'est brutal, on ne peut pas comprendre parce que c'est d'une violence extrême en fait. On a quelqu'un qui est là, qui respire, qu'on peut toucher et c'est terminé à jamais. Donc forcément, c'est quelque chose de très violent dans le physique. Mais il faut aller vraiment dans cette dimension plus subtile, plus haute. Et si on n'arrive pas à dépasser, faire son propre travail de deuil aussi pour accepter, pour faire une acceptation et libérer cette personne, non pas vouloir l'accrocher pour la garder parce que nous, on est triste. Hein. Voilà. Et ça, c'est pas OK pour moi. Donc, je pense qu'il y a une vraie compréhension aussi à mettre là-dessus, que c'est nous, en tant que vivants, qui devons vraiment nous accepter, nous détacher, faire ce travail de libération pour que la personne qui part soit en paix. Là, l'amener vers la paix, la lumière et la sérénité, c'est important. Et puis, on peut aussi aider des personnes qui n'ont pas compris qu'ils sont entre deux, à les élever, à les faire monter, à les faire passer. Il y a des personnes qui font ça très bien, ce sont les passeurs d'âme.
Et c'est tout le propos de la fête de Samhain, la fête celtique devenue la Toussaint par syncrétisme. Ce sabbat marque la fin de la saison claire et le début de la saison sombre. La nuit du 31 octobre, c'est donc l'occasion d'honorer ses morts. D'ailleurs, il paraît qu'ils adorent les fleurs, alors ne les en privons pas. Moi, je serai beaucoup trop loin du caveau familial pour m'y rendre, mais je vais préparer un bel hôtel avec des photos, des petits cadeaux et un long moment de recueillement. Je vais pouvoir rendre hommage à mes proches récemment décédés, mais aussi à toutes mes lignées qui sont le terrain sur lequel j'ai grandi. Mes racines, mon socle, et qui m'ont permis d'être là avec vous aujourd'hui. La preuve, s'il en est, que la mort n'est pas une fin, puisque tous nos ancêtres continuent de vivre à travers nous. Ce qui ne rend pas le processus de deuil moins difficile à vivre. Comme vous, ces derniers temps, j'ai dû faire toutes sortes de deuils. Le deuil de la première saison de ce podcast, le deuil de la vie d'avant la crise du Covid, bien sûr, mais aussi le deuil de personnes qui m'étaient chères. Je me suis rappelé que la psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross avait identifié il y a maintenant plus de 50 ans 5 phases par lesquelles on passe tous lorsqu'on fait un deuil. Le déni d'abord, puis la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Une sorte de parcours initiatique qui permet de sortir grandi de cette épreuve. C'est la vision que nous partage Laetitia Guerne, naturopathe et sorcière, rencontrée au Salon Zen, au milieu de ces fioles bleues remplies de phycocyanine.
La mort est vraiment une grande enseignante et elle nous apprend tous les jours, dans toutes les situations. Déjà quand on observe la nature, en fait, la nature, c'est vraiment une mort de chaque instant et chaque fleur qui tombe, chaque feuille qui tombe à l'automne, on sait qu'elle va tomber au pied de l'arbre, qu'elle va refaire du compost, qu'elle va fertiliser la terre pour permettre aux prochaines plantes de mieux pousser. Et dans toute mort, il y a vraiment une renaissance. Et c'est ça qu'il faut voir en toute chose. Et en tant que naturopathe, j'accompagne vraiment les gens à comprendre ce phénomène qui se passe en eux pour pas qu'ils aient peur des situations d'inconfort. Parce que quand on a une situation compliquée, on a tendance à vouloir la fuir, à la cacher, à ne pas vouloir la regarder, à en sortir le plus vite possible. Mais au contraire, c'est toujours dans la difficulté qu'il y a les plus grandes renaissances. Parce que c'est quand on n'a plus rien à perdre, c'est quand on est dans l'abandon, où on abandonne à tout prix ce qu'on veut contrôler, ce qu'on veut garder, parce qu'on pense que notre mental, c'est mieux. C'est quand on lâche qu'au final, il y a un champ des possibles immense qui s'ouvre et qu'on peut, en suivant son instinct aussi, retrouver un démarrage, retrouver une naissance. Et c'est pas pour rien qu'on dit, c'est quand on touche le fond qu'on peut rebondir. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, mais aussi dans le corps. Quand on s'obstine avec la médecine, parfois, à vouloir à tout prix s'acharner avec des médicaments, des choses, des traitements qui sont chimiques et qui peuvent avoir des répercussions, on a l'impression qu'on peut contrôler le corps, mais c'est souvent quand on arrête et qu'on abandonne, qu'on passe à des choses plus naturelles, où on laisse le corps se régénérer, qu'au final, il y a quelque chose qui se lâche, même avec la PMA, par exemple, les couples qui essayent de faire des enfants, combien de fois ils s'acharnent, ils s'obstinent, ils veulent absolument avoir un enfant, ils contrôlent, et puis il y a rien qui vient, ils sont figés dans leur peur, dans leur blocage, ils peuvent se créer des pathologies avec ça, et c'est le jour où ils décident d'abandonner, de dire non mais j'arriverai pas, je pourrai pas avoir d'enfant, et au final mon projet meurt, j'abandonne. Et c'est là qu'ils ont une grossesse spontanée. Et combien de fois j'ai vu ça en tant que sage-femme dans mes pratiques. C'est vraiment puissant. La puissance de la vie et de la mort. Il n'y aurait pas la mort s'il n'y avait pas la vie. Les deux vont ensemble et vont de pair. Et je pense qu'il est vraiment très important d'enlever le tabou sur la mort et d'encourager les gens à ne plus en avoir peur et au contraire à plonger dans ces petites morts quotidiennes pour renaître encore plus et se libérer de tous nos blocages qu'on porte dans chaque instant. Les enfants, ils ont un rapport complètement différent avec la mort. On voit qu'ils sont beaucoup plus à l'aise déjà avec la mort, avec les quand il y a un enterrement ou autre, ils veulent aller voir, ils perçoivent pas le deuil et la séparation, ils disent il est parti, ils ont tout à fait cette connexion aussi avec un autre monde où ils savent que on a peut-être plus la personne physique en face de nous, mais on est connecté en plein d'autres points. Et les enfants, c'est vraiment, je pense, la période idéale pour aborder aussi le sujet avec eux, de célébrer aussi la mort, de montrer que ça fait partie des actes quotidiens, qu'il ne faut pas en avoir peur, et que ils vont vivre à plein d'étapes différentes leur des petites morts dans leur vie au quotidien. Et en tant que sage-femme, j'accompagne vraiment les femmes aussi dans ce sens-là, parce que donner la naissance, c'est aussi accepter de donner la mort. Au final, déjà, on monte d'une génération vers la mort, donc tout le monde bouge d'une génération vers la mort quand une femme donne un enfant. Parfois, ça peut créer des conflits, mais la femme aussi, elle accepte de créer la vie. Et en créant la vie, on accepte le risque de créer la mort. Et voilà, c'est cette puissance que je remercie et j'encourage toutes les personnes à se connecter à cette puissance de la vie. La mort, c'est vraiment une occasion de renaître, parce que c'est on la voit souvent dans notre société comme la fin de quelque chose, mais au contraire, et je fais souvent l'analogie avec les cycles de la femme qui traversent à chaque cycle différentes phases. Et quand on a ses règles, ses menstruations, c'est associé à l'hiver, et l'hiver, c'est la mort, c'est tout est sec, tout est vide, tout est aride. Mais au contraire, si on n'avait pas d'hiver, on ne pourrait pas avoir de printemps. Et je dis souvent que voilà, cette phase, elle est essentielle pour retomber vraiment au fond de soi, dans son intériorité, d'aller connecter sa sorcière intérieure, vraiment ses ressources profondes. Et la sorcière, elle est toujours en train de touiller son chaudron, voilà, elle fait ses potions. Ben, on connecte cette énergie-là de pouvoir recréer la vie. Et justement, les règles, c'est toujours le début du nouveau cycle. Et on commence à compter à partir de J1, le premier jour des règles. Donc, à la fois, cette phase est associée à la mort et en même temps, c'est associé au démarrage du nouveau cycle. Donc, ça, on le vit à tous les niveaux dans notre vie. Là, on le vit en tant que femme vraiment de façon épisodique chaque mois, mais la ménopause, c'est pareil, on peut tout à fait voir le même schéma où ben voilà, la femme arrive à la fin de sa période de fertilité, donc beaucoup de femmes vont le vivre comme un deuil, comme une mort, mais au contraire, c'est vraiment l'intégration de toutes les phases de son cycle qu'elle a expérimenté l'une après l'autre chaque mois pendant toute sa vie. Là, elle a toutes les ressources en même temps et elle peut développer vraiment cette sagesse. C'est pour ça, quand on arrive à la ménopause, on écrit un livre, on ouvre une école. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans des projets humanitaires parce qu'elles ont intégré toute cette force qui, au final, peut, dans la société, la ménopause, c'est considéré comme la fin, comme ça y est, je suis plus bonne à rien, plus personne me voit, je suis plus séduisante, je peux plus faire d'enfants. Mais au contraire, on valorise pas tout ce potentiel, toutes ces richesses que la femme récupère lors de sa ménopause. Et c'est aussi le cas à toutes les étapes, pendant la grossesse, voilà, la séparation avec l'enfant peut aussi être vécue comme une mort de cet état de fusion. On le vit à chaque fois, voilà, à chaque respiration, à chaque étape de la vie des femmes, et même dans nos pathologies, quand les choses se figent, la vie ne circule plus correctement, et c'est là qu'on crée le nid des pathologies, puisque l'énergie ne circule pas, les cellules ne font plus correctement leurs échanges, parce qu'on bloque des peurs, des mémoires, ou tout simplement des blocages qu'on répète en permanence et qui nous empêchent d'avancer. C'est souvent les peurs d'avancer et les peur d'oser mourir qui vont créer au final notre plus grande mort et le fait qu'on s'immobilise, et le mouvement, c'est la vie. Donc tout ce qui va ramener le mouvement, tout ce qui va réenclencher le mouvement, c'est vraiment ce qui va permettre de renaître.
Ok, alors si je résume, la mort, c'est l'une des étapes du cycle de la vie, qu'on appelle aussi le cycle vie-mort-vie. Un cycle qu'on retrouve à tout moment, pour la lunaison lorsque la lune est noire, ou encore via le cycle des saisons lorsque l'hiver s'installe. Et comme tous les éléments de la nature, nous-mêmes, nous nous inscrivons dans ce cycle du vivant. Cet épisode également, puisqu'il touche à sa fin. Je suis très heureuse d'avoir parlé d'un sujet si sensible que la mort avec vous. D'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit. En langage des oiseaux, est-ce que vous entendez la mort, l'âme, or? Ça dit bien que l'âme sort du corps, non? Même si je ne suis pas pressée d'y aller, j'avoue envisager la mort avec une bonne dose de curiosité. On se refait pas. Si vous avez des questions ou des remarques ou des expériences à partager, je vous propose de prolonger la discussion sur Instagram en attendant la sortie d'un prochain épisode. Sur ce, je vous laisse avec Socrate qui disait « La mort n'a rien de tragique, dans 100 ans, chacun de nous n'y pensera plus ».